Et on continue donc avec le volet culturel de ce journal, volet culturel qui, comme d'habitude, vous est présenté par Marie et Raph. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Rémi.
Bonjour Rémi.
Et on commence donc tout de suite avec ton journal de la culture, Marie.
Et oui Rémi, cette semaine il fait toujours de plus en plus froid et la sudiste que je suis a un peu de mal à s'en remettre.
Qui dis-tu ?
Mais ne vous inquiétez pas, on a de quoi se réchauffer. On ne passera pas entre autres à côté de l'expo Matisse ce week-end au Musée des Beaux-Arts. On voyagera aussi au Congo grâce au TNP et au mot de Césaire. Et puis comme ça nous manque un petit peu, on va aller danser au Musée des Confluences.
Alors pour commencer, Marie, il y a du nouveau du côté du Musée des Beaux-Arts.
Et oui, en effet, c'est l'événement de cette saison au Musée des Beaux-Arts de Lyon, puisqu'hier a été dévoilée au public l'exposition Matisse, le laboratoire intérieur, qui bénéficie de prêts assez exceptionnels dans le cadre des 40 ans du Centre Pompidou, mais aussi de nombreux musées internationaux et de la famille de l'artiste, donc qui réunissent près de 250 œuvres.
Et est-ce qu'on va apprendre de nouvelles choses sur Matisse ?
Oui, parce que si l'expo s'organise autour d'une figure majeure de l'avènement de la modernité, un grand nom, le propos ici ne cède pas à la seule facilité d'une réunion d'œuvres phares. Les commissaires de l'exposition ont choisi d'éclairer un aspect moins connu du grand public du travail de Matisse, c'est son attachement au dessin. Alors, quels que soient les moyens, crayons, fusains, estampes, plumes ou encre, ou bien les supports, beau papier, pages de carnet, le dessin se fait omniprésent dans le travail de l'artiste. Et l'image du laboratoire intérieur, empruntée à Baudelaire et qui donne donc le titre à l'exposition, est le fil conducteur de toute l'expo. Il s'agit de confronter les dessins, croquis, gravures, aux toiles ou aux sculptures, pour mettre en évidence les liens qui unissent profondément toutes ces réalisations. Le dessin est un support que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir autant mis à l'honneur et c'était un pari assez audacieux.
Et est-ce que c'est réussi au moins ?
Le projet scientifique est vraiment efficace. On comprend le processus à l'œuvre grâce à des mises en relation ingénieuses et éclairantes entre une grande diversité d'œuvres qui dialoguent dans une scénographie fluide et limpide. Mais le dessin prend aussi une valeur en soi puisque l'émotion est réelle face à ces témoignages rares. On se retrouve parfois face à des pages de carnet qui portent encore des traces de punaises, de doigts ou de traits à demi effacés. On ne peut que constater la force du trait qui semble toujours animé d'une puissante volonté de recherche, de compréhension et presque de fouille du réel. C'est donc 14 sections qui sont à découvrir depuis les débuts académiques jusqu'à la chapelle de Vence, en passant par les périodes fauves et niçoises, et puis une salle qui revient aussi sur les liens particuliers de Matisse avec Lyon.
Et donc l'exposition a commencé le 2 décembre et se poursuit jusqu'au 6 mars 2017 au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Et sur la scène internationale, on a aussi appris une disparition importante cette semaine.
Et oui, c'est celle de l'artiste sénégalais Ousmane Sow, dont les sculptures monumentales l'avaient notamment fait connaître auprès du grand public lors d'une exposition sur le Pont des Arts à Paris en 1999. Ses œuvres présentaient par exemple des guerriers Maasai, des groupes de lutteurs, des Indiens d'Amérique, des femmes, des enfants ou des musiciens. Enfin bref, l'homme était au centre de sa pratique artistique, reconnaissable également à la matière singulière qu'il utilisait, une résine dont lui seul connaissait la composition. Il avait commencé sa pratique artistique tardivement, à l'âge de 50 ans, partageant ses projets entre la France et le Sénégal. Et il fut en 2013 le premier artiste noir reçu à l'Académie des Beaux-Arts de Paris. Alors sa recherche s'inscrit vraiment dans la diversité et la monumentalité, et ça l'a conduit à s'exprimer sur son rapport au corps ou à la matière. Il disait par exemple « Ce qui est intéressant, c'est que je peux rester sans sculpter, mais je ne peux pas rester sans inventer de matière. » Et c'est sans doute cette force, ce jaillissement de la matière que l'on retiendra de l'œuvre d'Ousmane Sow.
Et on reste en Afrique, mais cette fois-ci on change de pays d'univers avec un autre événement à Lyon, cette fois-ci au Théâtre National Populaire de Villeurbanne.
Et oui, en effet, parce que depuis hier soir, ce sont des mots poétiques et politiques qui résonnent sur les planches du TNP avec la représentation d'une saison au Congo, le premier volet des trois tragédies de la décolonisation d'Aimé Césaire. La mise en scène est signée Christian Chiaretti et ce ne sont pas moins de 37 comédiens et chanteurs qui se font les porte-voix des derniers mois de la vie de Patrice Lumumba. Alors celui-ci est nommé Premier ministre à la suite de l'indépendance du Congo en 1958 et la pièce retrace ses luttes entre les différentes forces qui se font face dans la course au pouvoir politique, mais aussi économique, dans un contexte d'effervescence entre incertitude et exaltation de la liberté nouvellement acquise. À partir de ces faits, Césaire livre un texte puissant et vibrant, caractérisé par sa verve poétique et engagée, faisant de Lumumba le symbole de l'histoire et de tout un continent, qui trouve ici écho dans le rythme de la mise en scène.
Vive Lumumba ! Vive Lumumba ! Hurrah ! Hurrah ! Vive l'indépendance ! Indépendance, tcha-tcha, cause oubliée !
C'est donc une saison au Congo qui entame un cycle de trois pièces consacrées à Aimé Césaire, suivront ensuite Cahier d'un retour au pays natal en janvier, puis La tragédie du roi Christophe en février.
Et c'est donc depuis hier et jusqu'au 10 décembre au TNP. Enfin, pour terminer, les corps sont également à l'honneur au musée des Confluences.
Et oui, en effet, je ne vous avais pas encore parlé de l'exposition Corps rebelles qui s'y déroule en ce moment et jusqu'au mois de mars. C'est une exposition donc sur la danse contemporaine, dont l'originalité se trouve surtout dans le parcours, qui se vit en véritable immersion dans un espace plongé dans l'obscurité. On se déplace muni d'un casque sur les oreilles, de section en section. On pourra ainsi visualiser 8 versions du Sacre du Printemps, mais aussi être entraîné vers des univers moins connus ou balisés, par exemple entre les thèmes de la danse savante, populaire ou politique. On pourra découvrir aussi la danse vulnérable, qui répond aux besoins d'une mise en scène des modèles de corps différents, déformés, qui répond aussi à l'impossibilité exprimée par des chorégraphes, comme Raymond Hogge, de mettre en scène des corps triomphants après les régimes totalitaires du XXe siècle. Alors si parfois les cartels de l'exposition peuvent nous laisser un peu sur notre faim, des manifestations sont organisées pour approfondir un peu plus les thèmes abordés, et une conférence est prochainement organisée autour de la question de la faillite physique comme rébellion du corps, et à partir des témoignages d'anciens danseurs, sportifs ou auteurs handicapés, ainsi que les propos de philosophes et soignants, il s'agira d'explorer le paradoxe d'une émancipation du corps rendue possible par la confrontation directe de ses limites. Et c'est le 6 décembre, donc, au Musée des Confluences. L'entrée est libre et gratuite.